Il est sur toutes les lèvres ce mot « harcèlement ». À l'école, les campagnes de sensibilisation se multiplient depuis plusieurs années. On informe les parents, on explique aux enfants, on sanctionne les responsables et pourtant. Aujourd'hui, selon un sondage de l'UNICEF et l'Éducation nationale publié en 2018, 10% des collégiens subissent un harcèlement. 7% déclarent avoir connu des violences répétées via les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. En 1881, Guy de Maupassant écrivait un conte dénonçant déjà le harcèlement scolaire. Au XXIe siècle, on est loin d'en avoir fini. Car les enfants, en plus de subir des propos injurieux dans la cour de récréation, peuvent maintenant se faire persécuter 24 heures sur 24. Le harcèlement est sorti des murs de l'école et s'invite désormais jusque dans les chambres de nos enfants, à travers leur téléphone, leur ordinateur.
Je suis Marie, la maman de Maxence, bientôt 14 ans, qui a été victime de harcèlement scolaire. Ça a commencé en 6e avec des moqueries. Les moqueries étaient basées sur le fait que Maxence est autiste et avait quelques heures par semaine un AVS à ses côtés. J'ai assez rapidement prévenu l'établissement parce que je ne voulais pas que mon fils subisse ce genre de moqueries. L'établissement m'a rassurée disant que c'était toutefois assez commun chez des élèves de cet âge-là de faire ce type de plaisanterie de mauvais goût. J'ai pensé que la situation s'était calmée jusqu'à la 5e où Maxence est revenu régulièrement avec des traces sur le corps, les jambes, les bras notamment, qu'il arrivait toujours à justifier. Mais j'étais malgré tout quand même assez méfiante puisque les justifications étaient toujours un peu bancales. Sauf qu'un jour, il est revenu avec des marques au visage. Et les marques au visage, de la façon dont il était censé se les être faites, c'était tout simplement impossible. Donc là, mon premier sentiment, ça a été d'être atteinte dans ma chair, dans ce qu'il y a de plus intime. On avait touché à mon tout petit, à mon enfant. Et de me dire, mon Dieu, il subit ce que j'ai vécu, moi, 20 ans en arrière, à la même période de ma scolarité. Puis prend vite le pas l'aspect combatif, savoir dire à son enfant « tu n'y es pour rien, tu es la victime, les bourreaux, ce sont ceux qui t'ont fait du mal, rien ne justifie, rien n'excuse qu'on puisse te faire violence ». Donc j'avais prévenu l'établissement scolaire qui, une fois de plus, a calmé le jeu, sauf que peu de temps après, Maxence a été violemment agressé avec des élèves qui l'ont frappé au sol pendant que d'autres le filmaient. Et enfin, bien sûr, un groupe assistait à la scène. Donc là, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte pour qu'il sache que lui n'avait rien à se reprocher et que les autres avaient fait quelque chose de grave qui pouvait les suivre toute leur vie. En tout cas, je ne sais pas si ça se reproduira ou pas dans sa scolarité, malheureusement, je l'espère vraiment pas. Mais une chose est sûre, c'est que le fait qu'il sache que j'étais à ses côtés, que je le défendrais quoi qu'il arrive, a beaucoup compté et lui a permis de regagner confiance en lui.
Comment je décèle si mon enfant est harcelé? Comment je peux l'aider? Pourquoi lui? Pourquoi je suis passée à côté? Autant de questions pour mieux comprendre pourquoi l'école peut devenir pour certains une vraie souffrance. C'est Emmanuel Piquet qui va y répondre. Auteur notamment de « Te laisse pas faire »,« Je me défends du harcèlement » ou encore « Le harcèlement scolaire en 100 questions », elle explique aux parents qu'ils ont raison de se demander si leur enfant fait partie des 700 000 élèves confrontés à ce fléau. Thérapeute, formatrice, elle est spécialisée dans le traitement du harcèlement en milieu scolaire et fondatrice des centres de consultation « Chagrin scolaire » et « À 180 degrés ». Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents « Galère sa mère », un épisode pour lutter et agir contre le harcèlement scolaire. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, je suis maman, moi-même, de deux garçons et en préparant ce podcast, la première question qui m'est venue, c'est « Où elle est la limite, parfois floue ?» entre l'enfant qui dit « Ah, lui, il m'a embêté à l'école » ou « il me harcèle ». Comment, moi, en tant que parent, je peux être consciente du danger sans être parano?
C'est une excellente question parce que, comme vous le disiez en introduction, on met un peu le mot harcèlement maintenant sur toutes les situations, même des situations qui n'en sont pas. Je pense par exemple à des bagarres qu'il peut y avoir dans les cours d'école, qu'il y a toujours eu, hein, en effet, mais où parfois on gagne une bataille et puis parfois on en perd une. Alors quand on la perd, on est très très triste. Mais comme on en gagne une le lendemain, c'est beaucoup moins grave. Le problème du harcèlement, c'est que c'est pas une escalade symétrique, comme des batailles à répétition, c'est ce qu'on appelle, nous, une escalade complémentaire, entre un enfant qui est de plus en plus en position recroquevillée, basse, humiliée d'une certaine manière, et un enfant ou un groupe d'enfants de l'autre côté qui est, lui, de plus en plus en position haute, en position d'emprise, en position de puissance. Et au fond, c'est cette escalade complémentaire qui va, de notre point de vue, définir la situation de harcèlement. Maintenant, l'institution, d'une façon générale, qui établit en fait les critères de ce qu'est le harcèlement, parle évidemment de répétitivité, donc de fréquence, parle d'une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, qui consiste à nous expliquer que seuls les enfants différents se font harceler, ou en tout cas en grande majorité, ce qui, de mon point de vue, c'est même pas un point de vue, c'est parfaitement étayé par notre pratique clinique et complètement faux, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont aucune aspérité à laquelle visiblement se raccrocher et qui pour autant se font maltraiter de façon absolument violente. La deuxième chose qui échappe, je trouve, à la définition dans l'analyse institutionnelle, en tout cas qui échappe aux faits institutionnels, c'est l'isolement. C'est-à-dire ces enfants qui sont jamais invités à aucun anniversaire, avec lesquels on ne veut pas partager ni le travail, ni les jeux, etc. C'est pas forcément hostile au sens explicite du terme, mais je pense que ça crée une souffrance assez similaire, finalement, à des violences symboliques, et je trouve que ça n'est pas pris en considération. Or, ça concerne beaucoup, beaucoup d'enfants aussi.
Alors, donc en tant que parent, quand on a un doute, on a peur ou qu'on veut savoir, quelles questions est-ce qu'on peut lui poser? Parce que c'est pas facile. Moi, je sais que quand je demande à la fin d'une journée à mon enfant comment ça s'est passé à l'école, souvent, on a deux réponses. C'est soit ça va, soit je sais plus.
Oui, ce qui est absolument pas inquiétant, hein, d'une certaine façon. Mais alors, je pense qu'il faut avoir quelque chose en tête de très important. C'est que les enfants, notamment les adolescents, mais ça peut commencer en CM1, CM2, ont une tendance assez forte à ne pas en parler aux adultes, et notamment pas aux parents. Alors, tout le monde s'étonne de ça, moi je trouve ça relativement logique, parce que, premièrement, ils savent, de façon soit très intuitive, soit parce qu'ils l'ont vécu, ils savent à quel point c'est douloureux pour les parents d'avoir un enfant malmené, maltraité, isolé, blessé, etc. C'est une souffrance animale, hein, chez le parent, c'est logique qu'elle soit animale, et donc, en gros, on a envie à peu près de tuer tout le monde, ou d'éclater en sanglots, enfin je veux dire, c'est très émouvant en fait. Et donc ils le savent, ils le pressentent à minima, et donc ils ont envie de nous protéger, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est aussi puissante à mon avis, c'est qu'ils ont très peur de ce qu'on va faire. Ils ont très peur de ce qu'on va faire et de la façon dont on va intervenir dans ce problème, parce qu'ils savent, pareil, hein, intuitivement ou pas, que ça peut avoir exactement l'effet inverse à celui escompté. Et donc, ça fait quand même deux raisons fondamentales qui sont de bonnes raisons, hein, pour ne pas en parler aux adultes.
Oui, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se livrer.
Exactement. Ils n'ont pas envie de se livrer à certains moments, ils ont peur de se livrer à certains moments. Et du coup, ça veut dire que c'est hyper important pour les parents de bien comprendre qu'il n'y a aucune culpabilité à ne pas avoir vu l'effet de harcèlement. Ouais. Parce qu'ils sont extrêmement puissants, certains, pour vraiment le dissimuler le plus possible.
J'ai rencontré aussi une maman dont le fils ne s'était pas livré parce qu'au bout d'un moment, il en avait parlé, il disait qu'il ressentait une profonde empathie envers son harceleur.
Alors, ça, c'est une situation assez fréquente où on a une espèce d'ambivalence de sentiments, en fait, hein, vis-à-vis de la personne qui nous fait du mal, ce qui est assez fréquent dans les couples aussi, pardon, hein, de le dire. Ouais, on n'est pas réservé aux enfants.
Bien sûr.
Et du coup, le problème, c'est que très souvent, ces enfants-là se retrouvent, en fait, face à un dilemme assez cornélien qui est soit je reste dans cette relation qui, à certains moments, me fait du mal, mais qui, à d'autres moments, ne me fait pas de mal. Parfois, ça peut être, par exemple, des groupes de filles, c'est assez genré à ce niveau-là, des groupes de filles qui prennent et puis qui jettent, qui reprennent et qui rejettent.
Oui,
donc,
oui.
Au moment où on est jeté, on est vraiment très mal, mais au moment où on est repris, on est vraiment très bien. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là en termes d'ambivalence. Et donc, la question, le dilemme, au fond, c'est soit je reste dans cette relation qui parfois me fait du mal et parfois me fait du bien, soit j'en sors. Mais si j'en sors, alors il y a d'autres risques. Il faut bien comprendre que les enfants, nos enfants, depuis maintenant, je trouve que ça a tendance à se dilater dans le temps, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment très concentré au collège, maintenant ça a tendance à se dilater au primaire et également à l'université, de l'autre côté, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des souffrances qui s'étalent en fait d'une certaine façon. Et donc, pour revenir à la question dont vous parliez juste au début, justement pour éviter ça, l'idée c'est de lui dire « je sens que c'est compliqué pour toi, je sens que c'est compliqué pour toi en ce moment, c'est une intuition que j'ai, moi, ta maman ».
Ce serait un ressenti.
J'ai l'impression que c'est compliqué. Je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler. Je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler parce que parfois les adultes ont fait des choses qui ne sont pas exactement efficaces et qui parfois même peuvent être tout à fait inefficaces. Et donc je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler. Sache que si tu m'en parles, et ça c'est vraiment très important, sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord.
Oui.
Parce que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a en ce moment, je trouve, dans cette gestion des faits de harcèlement, c'est que les enfants harcelés, qui sont quand même les meilleurs experts de ce qui leur arrive, pardon, c'est quand même eux qu'il faut écouter, de mon point de vue, ne sont pas écoutés. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent aux parents, ou lorsqu'ils disent à l'institution, je ne veux pas vous donner le nom, je ne veux pas que vous interveniez, je ne veux pas que vous fassiez d'intervention en classe, je ne veux pas que vous parliez aux parents des enfants qui m'embêtent, on ne les écoute pas.
Et c'est ce qu'on fait.
c'est ce qu'on fait. On va à l'inverse de ce qu'il me demande. Ce qui est très problématique. Hein.
Mais est-ce qu'on peut gérer le cas sans justement passer par toutes ces étapes, d'aller en parler à droite et à gauche?
C'est-à-dire que notre intuition, mais également qui est étayée donc par notre clinique, puisque nous, on reçoit, chez chacun scolaire, on reçoit environ 500 enfants ou adolescents harcelés par an. Donc, on a, je pense, en Europe, le matériau clinique le plus vaste sur le sujet. Et c'est un matériau clinique, en plus, qui n'est pas un matériau clinique juste d'écoute et de récolte d'informations. C'est un matériau clinique lié à des thérapies où on a accompagné les enfants pour les faire sortir de ces faits de harcèlement. Très clairement, dans une très grande majorité de cas, le fait d'être intervenu de cette façon-là, la plupart du temps, n'a rien résolu et parfois même a aggravé les choses. Pour une raison assez simple, c'est que, d'une certaine manière, l'enfant qu'on va prendre en charge à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va du coup intervenir à sa place en allant voir soit les enfants qui font ça, soit leurs parents, soit en faisant une vie de classe sur le sujet, etc., sont des enfants à qui, finalement, on enlève l'apprentissage qui consiste à savoir se faire respecter. Et ce faisant, alors même qu'on veut exactement l'inverse, on creuse un peu plus le manque d'estime qu'ils ont en eux sur ces capacités relationnelles. Alors qu'on veut l'inverse. Parce qu'au fond, en intervenant à leur place, on renforce cette escalade complémentaire dont on parlait juste au début. Oui. C'est-à-dire que on rend cet enfant encore plus vulnérable aux yeux des autres, puisque les autres se disent donc, lui, c'est vraiment la cible totalement adéquate, puisqu'il est incapable de se défendre, la preuve,
oui, il a besoin
sur les
des
parents
autres
qui interviennent ou les adultes qui interviennent.
Eh oui.
De la même façon, le message qu'on envoie à cet enfant-là, je le redis, c'est hyper important, c'est qu'on lui dit « tu n'es pas capable de te défendre relationnellement quand il t'arrive des choses difficiles comme ça, la preuve, je suis obligée d'intervenir à ta place ». C'est pas du tout le message qu'on va envoyer, qu'on soit bien clair. Le message qu'on va envoyer, c'est « je t'aime et donc je te protège ». Mais le message qu'on envoie malheureusement, de façon implicite, c'est quand même un message qui lui dit « tu n'es pas capable ». Et le problème, c'est que ce message-là, il l'intériorise. Or, précisément, ce message-là intériorisé va lui donner une posture qui est typiquement le genre de posture que les harceleurs de tout poil adorent. Une posture de vulnérabilité.
Ouais, mais c'est, du coup, alors on fait quoi si en tant que parent? Non, mais c'est compliqué.
Alors là, franchement, c'est vraiment moche. Donc, en fait, nous, du coup, partant de ce constat assez étonnant qui fait que donc vous citez les chiffres de l'UNICEF et de l'Éducation nationale, le dernier rapport PISA en parle aussi, les faits de harcèlement augmentent en France. On n'est pas du tout en train d'enrayer ce phénomène. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que les adultes en parlent beaucoup, de harcèlement, comme vous le disiez très bien en introduction. Les enfants n'en parlent pas, si vous regardez bien. Si vous observez autour de vous et que vous posez la question à des adolescents en disant qu'il y a des cas de harcèlement dans ta classe, ils disent non.
Oui, jamais.
Et dans le collège, il y en a, j'ai vaguement entendu parler, mais je connais pas.
Ouais.
Parce que c'est devenu presque quelque chose qui est devenu un sujet adulte, en fait, moi je trouve. Et donc, nous, notre préconisation, notre proposition, c'est vraiment de nous mettre à côté de ces enfants-là et de les aider à réguler avec leur harceleur de façon à ce que l'inconfort change de côté. Parce que on se rend compte que si ces enfants-là, les enfants qui harcèlent, qui ne sont pas des psychopathes, hein, ce sont nos enfants qui harcèlent aussi. Hein,
oui, bien sûr.
Et en fait, ils harcèlent pour une seule et unique raison, hein, la plupart du temps, c'est qu'ils sont en recherche de popularité. Parce que ça, c'est un des ingrédients absolument indispensables à comprendre dans ce phénomène, c'est que nos enfants, depuis deux générations, je dirais, sont absolument obsédés par cette notion-là, même s'ils ne la nomment plus, qui est au fond cette angoisse absolument hallucinante à l'idée de se retrouver tout seul. Mmh. Et donc, ils sont prêts à tout pour ne pas être tout seul. Une façon de faire pour ne pas être tout seul, c'est de harceler. Parce que du coup, on a autour de soi une cour craintive, certes, mais présente. Et donc, des gamins qui ont des facilités à trouver des surnoms méchants, à clasher, à être vraiment dans une expressivité un peu agressive, ont trouvé ce moyen-là pour asseoir leur popularité.
Vous voulez dire, en tout cas, que aussi le harcèlement, ce n'est plus juste donc une victime et son harceleur, ça peut être aussi donc avec un groupe de supporters autour du harceleur.
Il n'y a pas de harcèlement sans supporters.
Okay.
En fait, c'est vraiment de ça que ça se nourrit dans la très très grande majorité des cas. Et donc, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, et qui est très difficile à comprendre pour les parents, c'est que l'émotion fondamentale du harceleur au moment où il harcèle, c'est du plaisir. Un plaisir lié à la puissance, au sentiment de puissance, à l'emprise, au pouvoir qu'il a à la fois sur le groupe, à la fois sur la personne qu'il harcèle. Et donc, je trouve tout à fait paradoxal de s'adresser à lui pour qu'il arrête, alors même qu'il n'a aucune raison d'arrêter. Or, c'est ce que fait l'institution en permanence. C'est-à-dire que l'institution en permanence travaille uniquement sur les harceleurs, en essayant d'en faire prendre conscience que c'est moche, que c'est méchant,
oui.
En les sanctionnant, en faisant de la morale, etc. Mais personne ne s'occupe, au fond, de comment est-ce que le harcelé, qui est celui qui a le plus intérêt à ce que ça s'arrête? Parce que lui, il souffre, en fait, sa famille également. Lui, alors, il a des ressources, ce gamin-là, mais on les regarde jamais. On le regarde comme étant essentialisé victime, oui. C'est-à-dire que on regarde que le fait qu'il s'en sort pas, et donc on va faire à sa place, je le redis, en aggravant les choses, hein, de mon point de vue, en tout cas en aggravant cette structure relationnelle asymétrique. Alors même que si, en effet, on se met à côté de lui en lui disant « Tiens, réfléchissons un peu, la prochaine fois qu'il te dit ça, réfléchissons à ce qu'on pourrait dire, en fait, à ce qu'on pourrait faire de différent pour qu'à un moment donné, au lieu de gagner en popularité au moment où il te harcèle, il perde en popularité. »
Vous voulez dire par là que, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les établissements scolaires, hein, je le disais en introduction, le personnel des établissements serait pas suffisamment bien formé et qu'il faudrait leur apprendre à mieux gérer justement les cas et justement à plus s'occuper des victimes maintenant.
Alors, je pense que les enseignants ont beaucoup de choses sur les épaules, notamment en ce moment. Enfin, je veux dire, donc c'est
vrai.
mon propos n'est absolument pas de dire qu'ils sont pas formés. Je pense qu'ils se sentent extrêmement impuissants à certains moments. Je pense qu'il faut vraiment que les parents comprennent que les faits de harcèlement sont des faits qui sont mis en place de façon extrêmement subreptice, extrêmement souterraine. Je veux dire, les enfants sont pas idiots. Ils font en sorte que les adultes ne voient pas les choses. Hein. Donc, c'est extrêmement difficile à déceler. Si c'est difficile à déceler pour un parent, vous imaginez pour un enseignant. Hein. Je veux dire, il faut quand même aussi regarder les choses un peu en face. Et donc, je pense qu'en effet, c'est plutôt des populations transversales qu'il faudrait former, comme les CPE au collège, par exemple, comme les directeurs d'école primaire. Donc, des populations un peu transversales qui, en effet, gagneraient très fortement, en tout cas, chaque fois qu'on intervient dans un établissement comme ça, et le diplôme universitaire qu'on a mis en place et qui est actuellement dispensé à l'Université de Liège, pour justement les professionnels de l'enfance, sert à ça, c'est-à-dire à les former, à outiller des enfants vulnérabilisés par le harcèlement pour qu'ils parviennent à contribuer à mettre fin à ces faits de harcèlement. Parce que l'avantage de ça, en plus, c'est qu'ils font un apprentissage pour leur vie entière. Parce que la tentation, évidemment, est très grande pour un certain nombre de parents, d'enfants, de professionnels aussi, de se dire à un moment donné, quand les faits de harcèlement sont douloureux et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ce qui est quand même très souvent le cas, alors on va changer d'établissement.
Oui, ça c'est particulièrement dur parce que je me rends compte que les enfants qui doivent quitter leur établissement sont d'autant plus blessés du coup parce qu'ils se disent pourquoi c'est à moi de partir, non ?
Exactement, il y a une forme de double peine, vous avez parfaitement raison, qui est quand même assez incroyable. Mais de surcroît, et ça c'est ce qui me semble encore plus grave, c'est qu'on sait aujourd'hui que 60 à 70% des enfants harcelés qu'on change d'établissement pour des faits de harcèlement se refont harceler.
Et pourquoi ?
Mais parce que précisément, ils n'ont pas fait les bons apprentissages. C'est-à-dire que quand on ne sait pas du coup réguler avec des gens qui nous font du mal, quand on ne sait pas, on n'a pas acquis les compétences qui consistent à savoir se faire respecter, eh ben ça continue dans d'autres domaines. Je veux dire, moi, toutes les souffrances au travail que je ressens en thérapie relationnelle, puisque c'est quand même essentiellement ce qui fait souffrir, hein,
oui.
Ce sont les relations, souvent, c'est des enfants qui ont été harcelés petits. Parce que, je veux dire, on retrouve les mêmes à la machine à café, ce sont les mêmes interactions dans les entreprises.
Oui.
Et donc, c'est parfaitement logique, d'autant plus que nous, on considère qu'un des ingrédients les plus forts, en dehors de ce syndrome de popularité dont je vous parlais tout à l'heure, oui. Du harcèlement, c'est en effet la vulnérabilité de ces enfants-là. Qui est plus vulnérable qu'un enfant qui se retrouve dans un nouvel établissement?
Ben oui, bien sûr.
Alors qu'il vient d'être harcelé et qu'il espère de tout cœur ne plus l'être. Il n'y a rien de plus vulnérable que ça.
Comme vous disiez au tout début, vous disiez que selon vous, il n'y a pas de profil, on est bien d'accord, d'enfants harcelés. Mais est-ce que nous, en tant que parents, on peut quand même essayer d'anticiper ou être à l'affût, je ne sais pas, en fonction de la personnalité de son enfant? Est-ce que je vois mon enfant qui est très timide et pas très sociable, est-ce que ça doit m'alerter ou pas?
Pas forcément, parce qu'il y a des enfants très timides qui ne seront pas du tout harcelés et des enfants extrêmement bien dans leur peau à un moment donné qui se feront harceler quand même. Hein. Donc simplement, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est lié à des événements qu'on peut vivre, ne serait-ce que dans une journée ou dans une semaine, je veux dire familialement ou autre, et donc à un moment donné, on se sent plus fragile. Enfin, c'est valable pour les adultes aussi, évidemment. Le problème, c'est que les enfants, les adolescents, jusqu'à environ 20-22 ans, ils ont un espèce de radar absolument bien fait pour déceler qui est vulnérable à un instant donné. Ils savent les décrire, c'est assez étonnant, hein. C'est-à-dire qu'on leur met 10 collégiens devant eux en disant à votre avis lequel se fait harceler, ils savent, alors que nous on ne sait pas, eux ils savent, et ils savent pour une raison très simple, c'est qu'ils savent par la posture, c'est bien ça en fait dont on parle nous, c'est que nous on veut vraiment aider les enfants à changer de posture pour qu'à un moment donné les harceleurs se disent je n'y vais pas, je n'y vais plus.
Donc vous intervenez Emmanuel avec votre association, vous intervenez au sein des établissements. Comment ça se passe exactement ?
Alors, quand on intervient au sein des établissements, la plupart du temps, on va mettre en place ce qu'on appelle des ateliers de résistance. C'est-à-dire que on va en collectif proposer à une quinzaine d'enfants qui seront validés par l'équipe éducative et par leurs parents évidemment, comme étant des enfants qui souffrent dans la cour et dans les relations avec les pères, on va donc organiser des ateliers où on va les entraîner en fait avec la situation qui nous amène, on va les entraîner à dénouer cette interaction dysfonctionnelle. Donc ça, on peut le faire. On va le faire d'ailleurs là dans le cadre de la Journée nationale contre le harcèlement, comme on fait tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années. On ouvre tous nos centres dans différentes villes de France pour les enfants de primaire de façon gratuite pour ceux qui voudraient venir s'entraîner. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les établissements. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est des consultations en fait au sein des établissements pour les enfants qui le demandent, et encore une fois validées par à la fois les parents et les enseignants, mais de façon plus individuelle. Et puis surtout, on en ressort en consultation en fait, en ville en fait, d'une certaine façon. Et donc, on va vraiment travailler avec l'enfant pour comprendre exactement ce qui se passe. C'est très important d'être très très exigeant dans les détails de ce qu'il nous raconte, parce que je crois qu'il n'y a pas un cas qui soit similaire à un autre. Parce que leur salaire n'est jamais le même, le contexte n'est jamais le même, leur capacité à un moment donné à faire des choses n'est pas la même, même si au fond les insultes sont relativement monotones.
Mais ça tourne toujours autour du même sujet, ou il y a quand même un terrain propice pour qu'ils se développent ce harcèlement, ou pas forcément?
Non, il y a cette fameuse vulnérabilité, c'est-à-dire qu'au fond, un gamin harceleur va se dire, tiens, comment je pourrais sortir mon pouvoir? Tiens, je sens que là, la gamine, elle va pas très bien, donc je vais aller voir un peu, taquiner un peu pour voir ce qui se passe. La gamine ne répond pas précisément parce que elle est extrêmement mal dans sa peau à ce moment-là. Donc le gamin continue, la gamine ne répond pas, le gamin recontinue, etc. Et c'est comme ça que ça se met en place, le cercle vicieux du harcèlement, en fait. Donc, il n'y a pas forcément de critères au sens où nous, on l'entend. Et moi, je suis très inquiète quand l'institution nous explique qu'il n'y a que les enfants roux, gros, handicapés et mal habillés qui se seraient embêtés. C'est très ennuyeux parce que, d'abord, ça veut dire que les enfants roux, du coup, sont comme ça, se sont a priori un peu vulnérabilisés s'ils entendent ça, quoi, parce qu'ils disent, moi, ça ne va pas être facile pour moi. Et donc, du coup, ça induit déjà quelque chose. Je trouve ça très gênant. Et puis surtout, je trouve ça extrêmement faux. Donc, en fait, nous, on va vraiment regarder un peu ce qui se passe avec lui, observer avec elle, observer ce qui se passe. Et puis, on va se servir de ce contenu pour élaborer une stratégie qui, souvent, va à l'inverse de ce qu'ils ont fait auparavant. La plupart du temps, il y a deux façons qu'ont les enfants harcelés d'opérer. Soit ils se recroquevillent, ils essayent de passer dans les trous de souris, ils essayent de s'effacer dans les murs, etc. Ça, c'est à peu près 80% d'entre eux. Soit ils explosent dans des espèces de crises de hors contrôle, en fait, où ils s'infantilisent totalement. Et c'est très difficile dans ce genre de situation, parce que nous, on a vu des classes entières se mobiliser pour, d'une certaine manière, faire exploser un gamin, quoi.
Ah oui.
Parce que c'est amusant, en fait. Oui, bah oui. Oui, c'est quand même hyper drôle de faire perdre le contrôle à quelqu'un. C'est encore plus drôle quand c'est un enseignant, de leur point de vue. Mais si c'est un gamin, ça peut être bien aussi. Donc, du coup, nous, on va travailler avec eux en disant, tiens, on va faire autrement. Parce que tu vois bien que le fait que tu te recroquevilles, ou tu vois bien que le fait que tu exploses dans des crises de perte de contrôle totale, tu vois bien qu'au fond, c'est ce qui alimente leur plaisir, et donc c'est ce qui alimente le fait qu'ils continuent. Donc on va faire autrement. Et donc, on va élaborer, on va co-construire avec eux une façon de faire différente. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces enfants-là, lorsqu'ils ressortent de consultations, lorsqu'ils ressortent des ateliers, sont des enfants qui ont changé physiquement. Parce que pour la première fois, il y a un adulte qui leur dit au fond, toi, t'as un impact sur la situation. Ne crois pas les gens qui te disent que t'as pas d'impact. Ne crois pas les gens qui te disent qu'au fond, toi, tu seras une victime toute ta vie. Parce que, et d'ailleurs, c'est très intéressant sur un plan métaphorique, l'insulte la plus fréquente depuis maintenant, je dirais, 2-3 ans, c'est fragile, dans les cours de collège.
Ah oui.
Ouais, et ça commence en primaire. Et justement, c'était victime. Mm-hmm. Donc, on voit bien, au fond, ce qui est en train de se passer au niveau de la structure relationnelle, c'est que ce qu'on ne pardonne pas à ces enfants-là, c'est en effet de ne pas savoir se défendre. Donc, nous, on leur apprend à se défendre.
Des jeux de rôle, des choses comme ça ou...
Absolument. Donc, on va beaucoup les entraîner, parce qu'ils sont pas très... Ben, évidemment, comme ils sont en grande vulnérabilité la plupart du temps, ils sont pas dans des attitudes très fortes au niveau de la répartie au moment où ils arrivent chez nous. Donc, on va les entraîner, on va demander aux parents de les entraîner, on va leur demander de s'entraîner avec leurs frères et sœurs, avec leurs cousins, etc., jusqu'à ce que ça fuse de façon extrêmement naturelle. Mais, et ça, c'est vraiment très important que les parents comprennent, on se rend compte que quel que soit l'âge, et ça, je trouve fascinant, parce que moi, j'avais pas eu l'intuition que ça serait valable pour tous les âges, je pensais que ce serait valable que pour la primaire, dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en place la stratégie qu'on a élaborée, le harcèlement s'arrête. 50%.
Comment vous expliquez ?
Parce qu'il y a un changement de posture. C'est-à-dire que le gamin qui sait ce qu'il peut répondre, ce qu'il va répondre, sachant que bien entendu, nous, ce qu'on lui propose, enfin, je dis bien entendu, c'est pas du tout évident, mais ce qu'on lui propose, c'est toujours quelque chose qui va, je le redis, se servir de la violence de ce qui lui est envoyé. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la résistance, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'agressivité. On va vraiment se servir de ce qui lui est dit, à la fois dans la puissance et à la fois dans le contenu. Et en fait, un enfant qui repart à l'école avec de façon symbolique une flèche dans son carquois,
oui.
Il n'a pas la même attitude. Et au lieu de baisser les yeux pour ne pas croiser le regard de son harceleur, il cherche des yeux son harceleur. Et ça, ça fait une différence absolument colossale. Alors du coup, ils rentrent ces gamins en séance 15 jours plus tard en nous disant, ils sont très mécontents hein, parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place ce qu'on avait dit. Et donc ils nous disent, je ne te félicite pas. Donc on dit, bah oui, on est vraiment désolé, mais enfin, garde bien quand même dans ton carquois parce que si jamais ils recommencent, il faut que tu sois prêt.
Ouais.
Mais il y a quelque chose qui est modifié dans la structure même de la relation.
Mmh. Oui. Moi, je voudrais aussi parler de ce que je disais en introduction, à savoir que le harcèlement est sorti des cours d'école et qu'il maintenant il s'est invité dans nos maisons. Un enfant peut être maintenant harcelé, comme je disais, 24 heures sur 24. C'est quoi, selon vous, la différence entre le harcèlement dont on parle depuis le début, je dirais, entre guillemets, traditionnel, et le cyberharcèlement ?
Alors, c'est une différence, c'est très important que les parents l'entendent, c'est une différence de degré, c'est pas une différence de nature. C'est une différence de degré au sens où, comme vous l'expliquez très bien, c'est H24, c'est le dimanche à 15h dans le creux de la chambre de l'enfant, et donc du coup, de ce point de vue-là, c'est plus intense, ça génère plus de souffrance. De mon point de vue, en plus, il y a cette espèce de vertige, avoir des inconnus dont on n'imagine même pas l'existence, qui peuvent être témoins de ça et même y contribuer, alors même qu'on ne les connaît pas et qu'ils ne nous connaissent pas. Donc ça peut aussi, et c'est ça qui est très angoissant à certains moments, ça peut aussi rester sur la toile d'une certaine façon, donc c'est extrêmement angoissant pour tout le monde et notamment pour les parents. Mais, il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas le média. L'ennemi, c'est la structure de la relation, je le redis, pardon, hein, je suis un peu obsédée, mais...
Non, mais
c'est-à-dire qu'au fond, au fond, ça veut dire que si, tout à coup, on coupe un enfant ou un adolescent des réseaux sociaux, parce qu'il est cyberharcelé, alors il va continuer à se harceler dans les autres modalités, de façon vraisemblablement plus intense. Et ça, c'est très important aussi de bien le comprendre, nous n'avons jamais reçu d'enfants qui ne soient que cyberharcelés. Ça n'existe pas, c'est une modalité supplémentaire.
C'est-à-dire qu'on est harcelé et à l'école de manière plus traditionnelle, comme on disait, et on est cyberharcelé, pas que cyberharcelé, d'accord.
Absolument. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment hyper important, en revanche, de pouvoir outiller et faire beaucoup de prévention aussi hein, sur les réseaux sociaux auprès des enfants. Mais nous, notre équipe de thérapeutes jeunes est plutôt une équipe qui est très familière de ces réseaux et qui va aider les enfants et les adolescents à riposter aussi sur
leurs
réseaux.
Donc, le même principe, résistance, mais pas on ne coupe pas des réseaux sociaux, on n'arrête pas.
La plupart du temps, ça les met dans un état d'angoisse absolu hein, de ne pas savoir ce qui se passe sur les réseaux, parce qu'ils ont une illusion de contrôle au moins, ce qui est complètement faux, hein, ils ne contrôlent rien du tout,
bien
mais
sûr.
Ils ont au moins une illusion de contrôle, donc on les met dans une double souffrance, souvent qui est absolument catastrophique. Et, pardon, mais c'est le genre de comportement que je comprends parfaitement, mais qui va générer, en tout cas c'est le risque, le fait que les enfants n'en parlent pas. Hein, parce qu'ils se disent, si j'en parle, on va me couper des réseaux.
Eh bien oui, et du coup, comme je ne veux pas, je préfère me taire.
Exactement.
Mais est-ce que cette flambée, parce qu'on en parle énormément, hein, de cyberharcèlement, s'explique parce que justement, le harceleur n'est plus en face-à-face ? Est-ce que ça change quelque chose de pouvoir se masquer derrière un écran, finalement ?
Oh, ben bien sûr, oui, donc ça rend encore plus haineux, ça rend encore plus...
Il y a plus aussi cette empathie, quand même, que le harceleur peut voir, parfois, chez sa victime, puisqu'on est derrière un écran ?
Alors, je pense qu'en effet, ça enlève à peu près toute empathie. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir trop d'illusions sur l'empathie des harceleurs. C'est l'heure dans la cour. Hein. C'est pas tellement ça le problème, en fait. C'est tout le sujet. C'est-à-dire qu'on va faire appel à l'empathie de gens pour lesquels c'est pas le sujet. Ça veut pas dire que ce sera pas le sujet plus tard. C'est pas du tout définitif, mais leur sujet, c'est la popularité, c'est pas l'empathie. Notamment au collège, qui est la zone de cruauté quand même maximale, avec des chiffres qui sont complètement faux. Hein. C'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête. C'est que les enfants ne disent pas dans les questionnaires qu'ils sont harcelés. Il y a le biais de désirabilité sociale qui est énorme dans ces enquêtes-là. Et donc moi je pense qu'on sous-estime les chiffres, très clairement.
Mmh.
En revanche, ce que je pense, c'est que, par ailleurs, sur le net, ils sont extrêmement rudes dans le vocabulaire et dans ce qu'ils se disent, en fait. Hein.
Mmh.
Et donc, mais c'est aussi une modalité, hein. c'est une de leurs modalités. À un certain moment, les mots n'ont plus de sens. Je redis, ils en reprendront après, c'est pas, j'en fais pas du tout une fatalité, mais il faut aussi bien comprendre que souvent, ils sont dans des jeux relationnels sur le net qui sont, à mon avis, pas forcément exactement des cas de harcèlement. Maintenant, nous, ce qu'on retrouve assez fortement en cas de cyberharcèlement et sur lesquels on travaille beaucoup, c'est les cas de revenge porn. C'est-à-dire des gamines dont on va diffuser des photos d'elles nues ou très intimes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent.
Et comment est-ce que vous soignez ce trauma-là chez ces jeunes filles ?
Bah, tout dépend, en fait, hein, de la façon dont se manifeste le trauma, dans la façon dont ça les empêche de vivre ensuite. Mais grosso modo, on va les accompagner encore une fois à reprendre leurs droits sur leur image par voie numérique, hein, en fait, hein, d'une certaine façon, en arrêtant de se recroqueviller, en arrêtant de voilà de se terrer comme des lapins pris dans les phares. On va les remettre en pouvoir, en contrôle de leur image, pour modifier leur perception de ce problème-là, quoi. Et puis ensuite, bah, il va falloir les réaccompagner dans les relations, parce que le problème, c'est que évidemment, quand on a été harcelé de cette façon-là ou d'une autre d'ailleurs, et que on ne s'en est pas sorti par ses propres moyens, mais qu'on en est sorti par la vie qui a fait qu'on a changé d'établissement ou etc. Le problème, c'est que comme je vous le disais, ça reste en fait en termes d'apprentissage, quoi. Et donc du coup, parfois ça obère un certain nombre d'aptitudes. On sait aujourd'hui que ces enfants, une fois adultes, sont des enfants qui ont plus de problèmes cognitifs, qui ont plus de problèmes d'angoisse, qui ont plus de mal à entrer en relation. Enfin, je veux dire, parce que c'est pas parce que la dernière sonnerie du lycée ou de l'université a retenti que tout à coup, tous ces faits-là s'éteignent. Hein.
Bien sûr. J'ai une question, parce qu'on parle beaucoup donc des victimes, c'est normal, de comment aider les parents à déceler tout ça. Mais comment on fait si mon enfant, c'est le harceleur?
Alors, c'est très compliqué parce que, justement, premier point pour vous répondre, c'est quand même très intéressant. Nous, on n'a jamais en 15 ans reçu de parents d'enfants harceleurs.
Ah ouais?
Mais non, mais parce qu'ils ne souffrent pas. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on travaille avec ces personnes-là, en fait, d'une certaine façon.
On fait le travail à
l'envers. On a beaucoup de questions en conférence sur ce sujet, hein, puisque, voilà, là, c'est moins gênant, donc en gros, c'est, voilà, c'est pour ma cousine. Parce qu'elle, elle a son enfant qui est harceleur.
Oui, bien sûr. Bah oui, on a honte, forcément.
Bah oui. Donc en fait, moi, je crois qu'on peut pas faire grand-chose parce qu'ils ont pas beaucoup de raisons d'arrêter, vous voyez. Alors ça veut pas dire que une fois adulte ou jeune adulte, ils vont pas tout à coup ressentir une immense culpabilité. A posteriori, ça, j'y crois vraiment. Mais sur le moment, c'est un peu peine perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je suis très inquiète, moi, par les différentes politiques menées par l'institution, parce qu'on est que là-dessus. Ça ne fonctionne pas, je veux dire, on le sait, ça ne fonctionne pas. Tous les spécialistes, par exemple, sont d'accord. Pourtant, Dieu sait qu'on est en désaccord sur un certain nombre de points. Mais on est en accord sur un point de façon absolument claire, c'est que la sanction est inopérante. On s'est même rendu compte, nous, que des enfants qui avaient été virés de certains établissements pour des faits de harcèlement, donc, ce qui ressemble quand même à quelque chose qui est un peu de l'ordre de la justice, hein, par rapport à la double peine dont on parlait tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Eh bien, on se rend compte qu'après cette exclusion définitive, les faits de harcèlement ont recommencé comme délégués à d'autres.
Donc ça ne fonctionne pas. Mais d'ailleurs, que dit la loi exactement par rapport
à ça? Alors exactement, la loi dit que c'est du pénal. Ça veut dire que, donc, je veux dire, c'est quelque chose de grave. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si les enseignants ne le disaient pas, c'est pas comme si on ne le disait pas dans un certain nombre de communications ministérielles. C'est du pénal, ça peut être très grave. Les parents peuvent être poursuivis pénalement, il y a des amendes, il y a des peines d'emprisonnement. Enfin, après, il faut caractériser les faits. Moi, je veux dire, pour vous donner un exemple tout simple, je peux avoir, moi, des enfants qui sont absolument terrifiés par des regards qu'on leur envoie en récré, par exemple. Comment voulez-vous sanctionner un regard?
Ben bien sûr, c'est impossible.
Donc, et de la même façon, de ce que je vous disais au tout début, comment sanctionner des enfants qui ne veulent pas jouer avec un autre enfant, en maternelle par exemple? C'est impossible. Donc, on utilise des outils qui sont absolument pas adaptés au fond à la situation. Et ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que les gens qui en parlent beaucoup sont des gens qui n'ont aucune espèce d'expérience terrain. Ils parlent depuis des ministères, ils parlent depuis des bureaux, ils parlent depuis une expérience personnelle, mais à aucun moment il y a un terrain. Et moi, je trouve quand même que c'est intéressant de parler à partir d'un terrain, parce que sinon, je ne comprends pas quelle est la crédibilité.
Alors, moi, je voudrais rappeler vos deux centres. Donc, il y a Chagrin scolaire à 180 degrés. Est-ce qu'il y a des centres de consultation qu'on peut retrouver dans toutes les villes de France?
Alors, malheureusement, non, parce que sinon, c'est notre objectif dans 120 ans. Non, je plaisante. Mais en revanche, il y en a quand même dans un certain nombre de villes, et également en Suisse et en Belgique. Et puis, je voulais parler de quelque chose, parce que ça me tient vraiment à cœur. En fait, je me suis rendu compte, grâce à plusieurs rencontres et plusieurs récits, que il y avait des moments où certains enfants avaient été sauvés par le fait qu'ils étaient partis en colonie de vacances. Et du coup, parce que au fond, c'est comme si, voilà, c'était absolument l'enfer à l'école, etc. Et puis tout à coup, pendant 15 jours, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre un peu de la grâce. C'est-à-dire que tout à coup, ces relations absolument ignobles s'arrêtent et que tout à coup, il y a une nouvelle identité qui, même si c'est pendant 15 jours, se met en place. Et donc, en réfléchissant à ça, on a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Colo Révélo et qui monte justement aussi des colonies de vacances pendant les vacances pour que les enfants puissent, pendant ces colonies, réapprendre au fond des relations qui leur font du bien. Donc, on essaye vraiment de regarder toutes les modalités. Donc, il y a la consultation, en effet. Donc, on est à Lyon, on est à Paris, on est à Mâcon, on est à Dijon, on est à Lille. On est aussi, donc je vous le disais, en Suisse et en Belgique. Et puis, on essaye vraiment de proposer des choses comme les ateliers dans les établissements ou comme ces fameuses colonies de vacances pour qu'il y ait plusieurs modalités à disposition des enfants pour qu'ils puissent faire des expériences émotionnelles correctrices sur tout ce qui est relationnel.
Est-ce qu'un parent dont l'enfant est harcelé peut vous solliciter, s'il est dans une ville où il n'y a pas un de vos centres, pour que quelqu'un soit détaché et vienne intervenir dans l'établissement ?
Un parent peut appeler en disant voilà, je suis pas près d'un centre, et là on va avoir une, on peut très bien avoir une consultation avec lui ou avec l'enfant en téléconsultation.
Hein. D'accord. Alors,
évidemment, vu les contraintes en ce moment, c'est ce qui se fait de
mieux. Oui, bien sûr.
Nous, quand on va intervenir dans un établissement, c'est souvent pour un long projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est plus mandaté par soit une association de parents d'élèves, soit un chef d'établissement lui-même, soit par un rectorat. Mais on n'intervient pas juste pour un cas.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça demande trop de moyens, donc. Il faut vraiment faire. Et puis en plus, voilà, nous, comme on se met à côté de l'enfant, on n'a pas besoin d'aller dans l'établissement, on a juste besoin d'être à côté de l'enfant, en fait.
Donc, si je résume, les parents qui nous écoutent peuvent passer par votre site, qu'on mettra dans le lien de Chagrin scolaire ou de A180 degrés, pour pouvoir éventuellement solliciter une téléconsultation.
Exactement, exactement. Donc, ce sont des thérapies brèves. Hein. Donc, la plupart du temps, ces thérapies avec les enfants, ça dure entre 4 et 5 séances maximum.
Okay.
Et on a 80% de réussite. Donc, on a 20% d'échec. Hein. C'est sûr que ça veut dire quand même, si mes calculs sont bons. Voilà, donc c'est pas à tous les coups on gagne, évidemment, parce que c'est très complexe comme sujet, mais on y travaille de façon à ce que ce taux de résolution augmente de plus en plus.
Merci. Un grand merci à vous, Emmanuelle Piquet.
C'est moi qui vous remercie.
Pour nous avoir aidé à comprendre les causes et les conséquences de ce harcèlement scolaire, mais aussi pour nous avoir donné des clés pour pouvoir agir au plus vite. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur le harcèlement scolaire. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.